Voilà, donc le sujet que j'aimerais aborder ce matin, ne renoncez pas à votre bénédiction. Qui veut renoncer à la bénédiction de Dieu? Ben oui, on imagine bien. Hein, c'est gratuit hein, comme question. Donc j'aimerais ce matin donc vous parler, on va passer notre diapo, vous parler un peu des nappes phréatiques. Vous vous souvenez ce que c'est? Hein, vous aimeriez pouvoir vous désaltérer, vous rafraîchir. Entre notre hiver et puis notre été, hein, quel revirement, quelle différence. Et en géologie, ce n'est pas parce que la surface du sol est sec, sèche, craquelée et aride hein, que l'eau a disparu. Pourtant, on se demanderait. Hein. Bien au-dessous de la terre ferme, sous des mètres de roches, de remblais, de poussière, réside une nappe phréatique. Hein. C'est Dieu qui a prévu tout cela, profonde, pure, inépuisable. Alors à la surface, tout peut paraître mort, infructueux, stérile, mais l'eau est bien là. Elle est où? Ben, elle est en dessous et elle n'a jamais cessé d'exister. Elle attend tout simplement de pouvoir jaillir tout à nouveau. C'est les réalités qu'on voit dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Elle nous paraît comme invisible, mais elle est pourtant et bien là, et toujours là. Donc, les nappes phréatiques, c'est des réserves d'eau douce, hein, souterraines, situées eh bien, à faible ou profonde, voilà, un terrain profond. Alors, contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'un lac souterrain, mais d'une eau qui remplit les pores, les fissures, les roches, du sable, agissant à la manière d'une immense éponge. Hein. Elle prend, et puis si on va creuser, si on va à sa rencontre, elle pourra nous donner ce qui est nécessaire. Alors en méditant un petit peu sur tout ça, vous savez, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Si on traverse une période, une saison de sécheresse, que à la surface, on semble se chercher, on semble être là devant des circonstances qui sont arides, semble peut-être même que la promesse a disparu, semble que les choses sont inatteignables d'une certaine manière, mais la bénédiction de Dieu est réservée pour nos vies. Alléluia. La bénédiction de Dieu, elle est cachée. Elle est cachée pour nous, pour notre foyer, dans le service. Oui, il est toujours là. Et c'est vrai que cette nappe phréatique, la réserve de Dieu, elle est toujours là, disponible, prête à jaillir encore dans les temps qu'on vit. Amen. Alors ne renoncez pas à votre bénédiction. Souvent, parfois, elle est comme cette nappe phréatique, un peu cachée, isolée, on n'imagine pas toujours, mais il est vrai que même s'il y a de la poussière, on est de ceux qui ont besoin de puiser inlassablement encore auprès du Seigneur, dans sa fidélité, dans sa bonté. Alors je vous parle de ça, j'ai repris un peu les textes des puits d'Abraham et d'Isaac, vous vous souvenez certainement, et il faut se situer qu'en fait, à l'époque, l'histoire des puits qu'Abraham a creusés dans la contrée de Guérar, donc la ville royale des Philistins, pour subvenir à ses besoins, Abraham a rapidement compris que dans ce désert, il lui fallait adopter une nouvelle attitude et pratique, c'était de creuser un puits. C'était une garantie pour lui, sa famille et pour ses troupeaux. C'était nécessaire. Dans un tel désert, imaginez, c'était nécessaire. Et Abraham avait creusé des puits qui assuraient la vie, la prospérité de toute sa maison. Et les puits dans une région semi-désertique comme celle-là étaient comme une possession de prix. Vraiment, c'était une richesse qui faisait vraiment la différence. Et n'est-ce pas là, dans la vie du chrétien, lorsque nous avons la présence de Dieu, nous avons sa parole, nous avons la vie qu'il donne, n'est-ce pas là une possession hors de prix? C'est pas comparable, c'est pas égalable avec tout ce qu'on peut nous présenter, nous mettre à la portée de chacune de nos vies. Et Beersheba, on en reparlera, était appelé plus tard le lieu des sept puits. Hein, ces mêmes puits existent encore au jour d'aujourd'hui. Alors ne renoncez pas à votre bénédiction. Il y aurait ce matin trois conseils pour vous aider à le vivre. Et ce premier point, ne renoncez pas à votre bénédiction, c'était dans ce désert de Negev ou de Guérar, un puits n'était pas juste une formalité, une commodité. C'était vraiment une richesse qui allait aider à passer dans les temps les plus arides, les plus durs et difficiles. C'était question de vie, de mort, en fait. C'était, oui, aussi, eh bien, pour les familles, pour le bétail. Et c'était, si tu trouvais cela, c'était vraiment un apport inégalable. C'était une bénédiction, oui, peut-être invisible pour certains, mais c'était vraiment une richesse. Abraham allait-il chercher de l'eau ailleurs, alors qu'il y avait les puits qu'il avait creusés? Allait-il chercher autrement, alors qu'il avait tout cela à portée de main, hein? Deuxième conseil, c'est qu'on peut prendre, et on va lire un texte, dans Genèse 21-25. Voilà. Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Amen. Abraham se trouve avec le roi du pays, Abimélec, et voit dans cette offre l'occasion d'aborder la question du puits que les serviteurs du roi avaient pris de force à l'insu de leur maître. Donc il va falloir régler ce quiproquo, cette difficulté. Et il va falloir prendre un petit peu le temps à cela. Et puis c'est là où justement, vous voyez, comme il est écrit, qu'Abraham va faire des reproches à Abimélec parce que cette richesse, cette bénédiction, elle était sienne, même s'il n'était pas dans son territoire. S'il était là, résident Abraham, il avait creusé ce puits. Et donc, le deuxième conseil, c'est ne laissez personne prendre vos ressources. Ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous, c'est sûr, on en a besoin. Et nous avons vraiment besoin comme Abraham. Donc c'est là où vous avez du verset 30, du verset 27-33, vous avez là un traité, on va prendre le temps de le lire. Abraham prit des brebis, des bœufs qu'il donna à Abimélec et firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimélec dit à Abraham, qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au puits des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Amen. Nous voyons que dans ce traité, ce rapport d'engagement, il est ratifié selon, on pourrait dire, la coutume de l'époque, un serment des deux parties. Il s'engage. Et la mise à part des 7 brebis et la présence de témoins sont autant de signes qui servent vraiment à croire et à prendre cette disposition de se mettre d'accord ensemble. Et Dieu est un grand témoin, vous avez aussi dans ce texte-là. Et Abraham offre à Abimélec ces jeunes brebis en gage d'accord et qui servent de témoignage qu'Abraham avait bien creusé ce puits lui-même. Et lui prenant ces brebis était le rappel en fait qu'Abimélec lui en donnait accès à ce puits. Donc nous avons là une belle image que bien le sacrifice des 7 brebis qui était une préfiguration du prix qui devait être payé qui offre la bénédiction de Dieu. Et c'est une belle illustration pour nous rappeler que Jésus, lorsqu'il s'est donné à la croix, il a donné sa vie. Lui, le berger des brebis, il a accepté de donner sa vie, nous permettant de voir que lui-même s'est engagé afin de nous permettre d'avoir la vie en son nom, la vie en abondance dont il a parlé. La vie, on pourrait dire, qui est digne d'être vécue. Merci Seigneur, et c'est admirable de voir qu'il a fait sa part, et sur sa part, sur son engagement, la parole de Dieu nous dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il a donné sa vie, et c'est par cette offrande, et si on avait l'image des 7 brebis et l'offrande de Jésus, qui nous rappelle par son offrande, le don de sa vie nous permet de dire que c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus est notre héritage et notre part. Jésus a payé à la croix à notre place, afin que nous ayons part à la vie nouvelle et renouvelée en son nom. C'est là le privilège. Et on peut pas, bien sûr qu'on a besoin de témoigner, mais quand on a besoin de ses ressources, besoin de dépendre de Jésus, de voir ce qu'il donne en son nom, c'est merveilleux pour nous. Oui, c'est merveilleux parce que bien le nom de Beersheba donne un reflet de trois aspects du contrat. Ber signifie puits, Sheba 7 et Nisba, serment. Donc on voit à l'époque cet engagement-là était donné vraiment à avoir cet engagement et ils avaient le droit aussi, c'était le rappel qu'ils avaient le droit d'avoir cette bénédiction. Il y a des choses, vous savez, quand on voit que ça a coûté, quand on voit que c'est un coût, on apprend à avoir la notion du sacrifice que ça représente. La notion du sacrifice de Jésus doit nous rappeler qu'il y a un coût à toute chose. Et il y a un salaire pour nos œuvres. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a accepté de mourir pour nos péchés. C'est dire que lui a voulu nous en débarrasser. Lui a voulu nous racheter. Et on ne peut pas renoncer à l'amour de Dieu, non ? Qui veut renoncer à l'amour de Dieu ? Non, vous ne levez pas la main ce matin. Bah, tant mieux, hein ? Alors nous pouvons le dire que ces versets rappellent que les serviteurs d'Abraham, ils avaient creusé plusieurs puits durant toute sa vie dans la région de Guérar. Alors je retrouvais ce verset dans Genèse 26:15, il nous est dit « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » Bon là ça se gâte un peu. Les trois conseils, ne renoncez pas à votre bénédiction. Il y a des choses, c'est sûr. Il faut aller de l'avant, il faut continuer. La part que nous avons, c'est la nôtre, c'est celle qui nous réserve. Ne laissez personne prendre vos ressources. Imaginez d'avoir un tel puits comme ça pour vous rafraîchir et pourvoir vos besoins et dire dans, non, ben, je ne vais pas m'en servir en fait. Ce serait paradoxal. Hein ? Et puis en même temps, troisième chose, c'est ne laissez personne enterrer votre héritage. L'histoire des puits bouchés et réouverts par Isaac. En fait, Abraham, il avait creusé ces puits-là. Et ces puits-là avaient servi de son temps. Ça avait été merveilleux d'avoir part à cela. Et comme je vous ai dit, on appelait Beersheba, appelé plus tard, le lieu des sept puits. Donc ça donne quand même de voir, il y avait de quoi, de pourvoir à ses besoins, de quoi être bien, de quoi être heureux, de quoi avoir des ressources pour vivre. Notre vie en Jésus est inégalable. Ah oui, non ? Vous êtes d'accord ? Oui ou non ? Vous n'êtes pas convaincu ? Ah ben oui. Bon, des fois, on peut rouspéter. Ça vous arrive de rouspéter un peu ? Hein ? Mais quand même. À côté de ça, merci Seigneur. L'histoire des puits bouchés réouverts par Isaac, après la mort d'Abraham, Isaac était content de séjourner à cet endroit et de cultiver la terre. Et quand vous regardez son expérience, c'est merveilleux ce que Dieu fait d'une manière, à la fois avec les puits, il y avait la bénédiction de Dieu, et puis en même temps, lui, il va s'adonner en arrivant dans le pays, il va semer dans le pays. Genèse 26:12, il nous est dit, il sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple. Waouh ! Car l'Éternel le bénit. Il avait des petits, troupeaux du petit bétail, des troupeaux de grand bétail, un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Ah bah mince alors. Ah c'est embêtant quand même. Isaac va expérimenter dans ce pays-là la provision de Dieu, sa part de rien, de semence. On a parlé récemment de la semence, grain de sénévé, c'est rien, c'est quasiment rien, on pourrait dire. Et puis Dieu va le bénir, il va récolter le centuple, l'Éternel le bénit. Et il était en tout point, il était pourvu quand même. Mais ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Quand vous êtes bien, tellement bien, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et qu'est-ce que c'est de ce monde-là ? Hein ? Qu'est-ce que c'est cette société-là ? Et il nous a dit qu'en fait, ils vont pas lui jeter quelques petits cailloux dans les puits, mais ils vont les boucher. toucher, les combler, les remplir de poussière. Alors, on peut voir aussi trois réalités, bien qui démontrent que la bénédiction de Dieu se recherche. Et parfois, si on la veut, il faut creuser, il faut aller la chercher. Et c'est que l'eau existe déjà, mais elle est bloquée par des obstacles, on pourrait dire, qu'il faut extraire, enlever, faut user de la pelle pour creuser. Hein. C'est pas la pelle vocation, hein. C'est la pelle qu'il faut creuser. C'est l'étape, on pourrait soulever par là, et bien qu'il y ait un renoncement, ça pourrait sous-entendre qu'on parle par là aussi pardon, de sanctification, la responsabilité du croyant. Qu'est-ce que vous faites quand on vous bouche vos ressources, quand on vous bouche le coin, de quoi vous réjouir et vous désaltérer? Ben, à un moment donné, il faut y aller. Et il faut y aller parce que la bénédiction de Dieu, elle se recherche. On ne peut pas se laisser amoindrir dans la vie chrétienne, dans la foi, dans la piété, dans la sanctification, que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Et c'est sûr, si on a part à une eau pure, merci Seigneur, on doit encore travailler à cela. Et c'est pas avec des pelles et des pelles de poussière, de terre qu'on va pouvoir se désaltérer. Mais il va vraiment falloir encore, oui, que ces réalités, eh bien, qui démontrent que la bénédiction de Dieu se recherche. Première chose, les Philistins caractérisent les situations bouchées par leur acte hostile. Ils stoppent la part aux bénédictions à cause du mépris, la méchanceté et la jalousie. Les Philistins sont le lot de tout ce qu'on peut côtoyer au jour d'aujourd'hui. Et Philistins, il y en a. Oui, ils sont venus aussi jusqu'à nous. Ils n'ont pas détruit ces sources. Ils ont simplement comblé de poussière. Ils ont remblayé. Et ils ont pas. Quand Isaac est arrivé, l'eau était toujours là, mais au fond, elle était comme inaccessible. Et Isaac a dû entreprendre un travail de recherche, de creuser, de redécouvrir ses puits pour retirer la poussière. La pelle devait servir pour de pelle en pelleté. Oui, d'évacuer ce qui n'était pas possible. Les Philistins caractérisent les situations bouchées. Vous en avez vu les Philistins? Boucher un puits avec de la terre, de la poussière, était un acte d'hostilité. C'était un acte quand même, on pourrait dire, d'une certaine façon, c'était comme une sorte de guerre, déclaration de guerre. Imaginez vos ressources. On vient et on vous enlève tout ça. Et du coup, c'était comme, pour eux, ça symbolisait eh bien, le refus de voir la bénédiction de Dieu s'épanouir chez les patriarches, Isaac, Abraham, etc. Et ils vont, pour neutraliser ça, ils vont pas prendre l'eau de ce puits, ils vont plutôt le remplir, le trou avec de la terre, des pierres, des débris. C'est lamentable, mais ils l'ont fait. Ils vont pas dire, non, on vous interdit de venir prendre de l'eau, nous on va le faire à votre place, et de toute façon c'est chez nous, on fait ce qu'on veut, etc. Non, c'est, en fait, l'eau elle était là, elle était utile et prête à être utilisée pour tous, et ils vont dire, mais justement on va remplir tout ça. Ça vous met pas en rogne ça? Hein? Surtout quand vous avez soif, je vois la sœur à boire justement, ça lui donne un petit coup là, ça donne envie, hein. Et c'est vrai. On a vraiment besoin de comprendre qu'il y a les Philistins représentent véritablement tout ce qui peut amoindrir notre vie spirituelle, amoindrir et affaiblir nos besoins. Nous comprenons qu'il y a chez eux, ça sous-entend eh bien, le compromis, la routine, etc., le découragement, ces actes, ils avaient chez eux quelqu'un d'étranger qui portait la bénédiction de Dieu. Bah, au lieu de s'en réjouir, ils vont lui boucher ses puits. Imaginez dans le voisinage, hein, vous êtes tellement bien, tellement gentil, que les gens vous veulent du mal. C'est paradoxal, mais c'est un peu le propre même du cœur de l'homme, hein, de la femme, parce que bah, elle est aussi dans l'eau. Hein. Et donc, alors oui, c'est vrai que... elle est étouffée, cette eau. Elle n'est pas tarie, la source, mais elle est étouffée par cette poussière. Et c'est menaçant, cette bénédiction de Dieu, menaçante par ce genre d'attitude. C'est un gâchis. Hein, c'est des relations, vous pourriez imaginer les Philistiens comme des relations équivoques qui peuvent tout bloquer. Hein, il y a des Philistins ou des personnes qui peuvent caractériser des situations qui se bouchent. Oui, par ce genre d'attitude, ça peut être désarmant de voir qu'on peut se laisser prendre et on ne doit pas renoncer à notre bénédiction derrière. Il y a nécessité de regarder ce que dit la Bible, parce qu'elle nous offre des solutions pour déblayer, pour remettre un peu les choses à leur place face à ce genre d'attitude. La Bible donne les images. Comme dans Ésaïe 57, 14, il dit, on dira, frayez, préparez le chemin. Ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple, Ésaïe 57, 14. Ésaïe 62, 10 dit, passez par les portes, préparez le chemin du peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Alléluia. La Bible nous donne aussi cette réalité dans Hébreux 12, 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si difficilement. Non, facilement. C'est embêtant quand même. Hein ? C'est un peu comme des pelletées de terre et de poussière. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je vous disais trois réalités qui démontrent que la bénédiction de Dieu se cherche, se recherche. Deuxième chose, ça va ? Vous êtes toujours là ? Deuxième chose, c'est la terre, la poussière qui recouvre. Nous sommes tous fruits de la terre, fruits de la poussière, et la poussière retournera à la poussière. Mais boire un bon verre d'eau fraîche avec un peu de poussière dedans, c'est horrible, hein ? Ça donne pas envie, hein ? Bah, je t'ai concocté un petit verre sur mesure pour toi. Et nous comprenons que dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Oui, nous avons vraiment besoin de revoir, peut-être, on pourrait nommer ça, la terre un peu du ressentiment. Il y a, quand ils ont mis cette terre-là, c'était avec des actes de méchanceté, de jalousie. Et c'est sûr, on pourrait imaginer par là comme une blessure non pardonnée et qui s'accumule et finit par bloquer nos cœurs à la joie de Dieu, à cette assurance qu'on a en lui. C'est des choses qui jettent comme une pelletée de terre. C'est imbuvable, pas possible. Ou alors si on continue à boire avec ça, on sait qu'on se fait du tort et du mal. Donc on a vraiment besoin de démontrer que la bénédiction, c'est pas ça, mais ça va aller se chercher en enlevant la terre. Alléluia. La peur aussi qui est la nôtre. On se dit, mais s'ils ont fait ça, j'enlève la terre, mais qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ? Alors on se dit, ben on va rien faire. Et on a peur peut-être du qu'en dira-t-on, de ce qu'on fera ou dira ou manifestera, ou on se dit à la fin, oui, il y a une bénédiction, mais c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas possible, inatteignable. La peur, l'inquiétude. Et oui, on a vraiment besoin de dire, Seigneur, on a vraiment besoin que cette terre, cette poussière qui recouvre puisse être enlevée, ôtée. Alors, si on ignore ces choses-là, si on passe ça sous silence, si on le reconnaît, on le sait en fait, mais qu'on fait avec, ça vous arrive déjà de faire avec, hein ? De dire, bah allez, quand même, c'est pas grave, faut en payer le prix. Non, c'est pas le prix comme ça, c'est pas ce que Dieu prévoit en fait. Dieu prévoit mieux et meilleur, alléluia, et merci Seigneur. Le fait d'ignorer le blocage, il y a deux attitudes négatives qui peuvent aussi apparaître et qui en découlent, c'est le cas de le dire, pour de l'eau de puits. L'abandon, de dire, ben, en fait, le puits, il n'a jamais existé, on idéalise, voilà, mais c'est pas possible. Non, il y a le monde, il y a tellement de Philistins, on pourrait dire, au jour d'aujourd'hui. C'est tellement colossal, il y en a partout. Alors de se dire, oui, c'est l'abandon. On s'habitue à vivre dans la sécheresse. Ben oui, parce qu'on n'a pas la clim. Hein ? Et on s'habitue à faire face et puis de se dire, bah, de toute façon, c'est mon problème. Ou alors, c'est peut-être essayer de créer une autre alternative. Voilà, on essaye de créer un autre moyen pour subvenir à nos besoins. Et au lieu de creuser pour déboucher le puits, on va chercher de l'eau ailleurs, dans des solutions ou des citernes. Et la Bible voilà, dénonce nos égarements. Lorsque Jérémie, le prophète, il dit « Eh bien, mon peuple a commis un double crime, double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Amen. Vous connaissez ce texte, bien entendu, mais c'est quand même Dieu qui nous parle. Aurions-nous mis de côté ce qui était à déboucher ? Ah, bien sûr, à la maison, s'il y a un truc bouché, voilà, on va essayer d'appeler le réparateur pour déboucher, mais déboucher l'accès à nos cœurs, à nos dispositions, à nos sentiments, nos ressentiments. La Bible dit qu'ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau. Ils sont allés se creuser des citernes. Mais les citernes, elles sont crevassées. Ce n'est pas le puits d'eau vive que Dieu donne. Et nous avons vraiment besoin que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous avons vraiment besoin de savoir aussi le reconnaître. De savoir dire une réalité qui démontre que la bénédiction de Dieu se recherche et qu'il y a de la poussière. Il y a parfois de la poussière qui s'agglutine au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, qui fait qu'à un moment donné, faut dépoussiérer tout ça. Boire de l'eau avec de la poussière, je pense que déjà c'est désagréable. Alors avec une pelletée de terre, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde pour pouvoir en boire. Et nous comprenons que nous n'avons pas forcément besoin d'une nouvelle révélation et spectaculaire, mais simplement de déblayer la poussière accumulée sur eh bien, la parole de Dieu, sur les vérités, sur les promesses, sur notre marche, notre démarche, notre attitude, qui doit être dépoussiérée peut-être de nos habitudes, notre religiosité peut-être, nos critères qui sont les nôtres. Et on finit par être bloqué avec tout cela, on finit par eh bien, devenir peut-être, allez j'imagine, oui, comme un musée de poussière. Alors qu'en fait, on est appelé à dépoussiérer nos cœurs, dépoussiérer nos pensées, nos attitudes. Qu'est-ce que vous en pensez, mon frère, ma sœur ? Eh oui, parce que derrière, en dessous, il y a des puits d'eau vive, au fond, là. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés, nous a mis de côté ou nous méprise, mais que Dieu a prévu ce qu'il faut. Et c'est merveilleux de se dire, oui Seigneur, merci encore de nous aider. L'ennemi ne va pas détruire la foi, mais il va l'étouffer sous la poussière. Il va essayer de nous cajoler, nous caresser, nous mettre dans un petit coin, un petit peu de poussière, ça va, voilà, ça va respirer un peu, le renfermer. Et puis il se dit, il va se contenter, il va faire avec. Hein. Mais nous pouvons voir par là la distraction, les soucis, la routine, etc. Mais la parole de Dieu nous montre que nous avons besoin de laisser Dieu nous désaltérer à nouveau. Et là, ce matin encore, c'est la bonne occasion. C'est le bon moment, opportun et profitable. Troisième chose, parce que, oui, la troisième réalité qui démontre que la bénédiction de Dieu se recherche, c'est qu'en fait, l'eau était si précieuse dans cette région désertique. Ça, on ne peut pas le dire autrement. Vous avez peut-être d'autres moyens qui rappellent eh bien, ce qui est précieux, mais l'eau, c'est pas grand-chose. Quand on l'a, on finit par de laisser couler. Quand on se brosse les dents, on laisse couler, on lave un truc, on laisse couler. Vous voyez, on n'a pas forcément le rapport à cette commodité comme d'autres l'auraient dans d'autres pays. On sait que l'eau est précieuse dans cette région désertique. Et combler le puits de quelqu'un était désastreux pour son propriétaire. C'était considéré comme un délit et ça pouvait être, comme je le disais tout à l'heure, comme une déclaration de guerre. Imaginez de vivre sans eau, privé de douche, privé de boire, de déshydraté, privé de piscine, privé de quoi se rafraîchir. Imaginez, c'est un peu embarrassant, embêtant quand même, non ? Les puits bibliques étaient vraiment donnés pour donner de réaliser qu'il y avait là une richesse. Mais Isaac aurait pu riposter, mais il préféra rien dire. Et j'ai retrouvé ce texte dans Genèse 26:16. 26:16, Abimélech dit à Isaac, va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Amen. C'est beau de voir ce qu'ils vont faire. Alors, comme des écologistes diraient, travaillons au développement durable. On pourrait dire développement durable spirituel. On travaille à tout cela, des développements spirituels durables. Il faut travailler. Oui, ce que nous faisons dans la prière, la manière que nous travaillons pour investir pour le royaume de Dieu, c'est sûr. Nous travaillons non pas pour ce temps, mais pour l'éternité. Amen. Alors oui, on pourrait dire aussi, adoptons des gestes éco-citoyens, mais éco-citoyens des cieux. Eh oui, on a besoin d'adopter des attitudes qui soient nécessaires. Parce que la parole de Dieu parle aussi de l'eau qui est précieuse, mais le nettoyage du cœur pour laisser couler l'eau. La parole de Dieu en parle, en fait. Et déblayer demande des efforts, de la discipline, de la persévérance. La Bible dit quoi ? Dans le Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et vous le connaissez, hein, ce verset. Hein ? Et il est capital. Oui, et pour cela, pourquoi et comment ? C'est garder son cœur. Parce que tout cela peut jaillir déjà de l'intérieur. Et merci Seigneur, semer aussi, selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice. Osée 10:12. Amen. 2 Timothée 2:21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous le reconnaissons fort bien. Il y a là dans la parole de Dieu et par l'image de l'eau, oui, c'est par l'image du nettoyage, permet à l'eau de jaillir, de couler. Merci Seigneur. Alors, je terminerai à dire et rappeler que nous avons, d'une certaine manière, à prendre exemple sur Isaac. Isaac, il a adopté la persévérance. Isaac a pu agir à l'envers de cette méchanceté, parce que ça aurait été de dire, on a fait ça pour moi, alors moi je fais ça aussi. On m'a fait ça, et ben moi je te rends ça. Voilà. Non. Et puis nous comprenons que derrière tout cela, on n'en finira jamais, et puis au fond c'est des actes de chair. Mais nous avons vraiment besoin d'adopter la persévérance d'Isaac. Oui, au lieu de chercher de nouvelles méthodes, un nouvel moyen pour essayer de remédier à tout cela, Isaac, il est retourné aux sources de son père, d'Abraham, le père des croyants, et a déblayé la terre accumulée, a redonné vie aux anciennes sources de rafraîchissement. Il est allé à coups de pelle, et il va retirer à coups de pelle cette poussière des Philistins. Je crois que par la persévérance, par l'exemple, par la prière, le fait de contrebalancer, oui, avec des attitudes qui plaisent à Dieu, c'est adopter la persévérance d'Isaac. Tu ne vas pas avoir part au puits sans effort. Ce n'est pas possible, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête de rêver, excusez-moi, il faut le dire. Hein. On ne peut pas avoir part à la bénédiction sans que ça nous amène et nous ramène à des efforts. On ne peut pas avoir la vie de Dieu sans sanctification. Sans avoir des résolutions, sans avoir une vie qui va chercher à dire « Oui, c'est nécessaire, il faut que je passe par là, parce que derrière, Dieu m'attend pour encore faire toute chose. » La persévérance et les efforts d'Isaac se sont constitués comme une tête de forage. Vous savez, une tête de forage, c'est ce qui va creuser. Parfois, on sonde de sol, on fait, on va chercher dans la terre, dans les profondeurs, on va essayer de sonder. Et forer, ça ne se fait pas en surface. C'est un outil adapté qui est capable de fendre la roche et de descendre mètre par mètre. Et puis, si le forage arrête à 10 mètres alors que l'eau est à 12 mètres, on ne récolte que la poussière et la déception, n'est-ce pas ? Donc on sait que Isaac, il a creusé. Et pour nous, c'est important cette attitude. Ces campements qui étaient établis à ces puits qui s'appellent Ézec, dispute, et puis encore, puits à opposition à Sinat, l'aboutissement à la paix, de l'abondance, des larges espaces de Rehoboth, c'est les termes et les significations de ces différents puits. La tête de forage pour nous pourrait s'illustrer par la prière. Eh oui, on prie, on creuse, on y va. Le jeûne, la méditation, la parole de Dieu, c'est une tête de forage. Il y a des moyens où Dieu nous permet, nous permettra. Oui, on avance. Ah, il y a des pelletés, oui, c'est vrai. Et quand on laisse faire et quand à un moment donné on se dit il va falloir reprendre des dispositions, il y a beaucoup à faire. Donc, il vaut mieux surveiller au fur et à mesure, petit à petit, les choses, pas se laisser prendre et déborder par les Philistins, par l'adversité. Il serait temps que tu reprennes les choses en main. Il serait temps que tu creuses, peut-être, avec une manière de, eh bien, de dire, comme cette tête de forage, de dire, oui, il serait temps que je me repositionne. J'en ai marre de la poussière. J'en ai marre cette terre qui est là dans mon puits, c'est là où je dois me désaltérer, c'est pas possible que je vive et je continue à faire avec ou faire semblant ou faire comme si tout va bien. Alors j'en ai plein la bouche et c'est pas possible de se désaltérer comme ça dans ces conditions-là. Le courage et la persévérance d'Isaac ont permis de restaurer ce qui était enfoui. C'est, on pourrait dire, l'eau de l'héritage, notre héritage de notre Seigneur. De ce qu'il a fait pour nous, l'eau de la bénédiction, quelle fraîcheur, quelle part merveilleuse. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent des puits, un puits d'eau vive, Genèse 26, 19. Et là, ce texte-là, moi, il me revient, c'est merveilleux de voir que les puits ont été nommés Ézec, dispute, contestation, etc. Et en fait, ils ont recreusé les puits. Ils sont revenus, ils ont recreusé ces puits. Et en creusant, ils trouvent un puits d'eau vive. C'est merveilleux de voir que dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos incompréhensions, dans ce qu'on veut parfois faire pour notre tort, ça peut nous amener à voir des fleuves d'eau vive. Ah, je sais pas comment Dieu s'y prend, mais il s'y prend bien. Il est capable de faire ce qu'on n'aurait jamais soupçonné. Et on leur a fait la misère, on leur a bouché les puits, on l'a empêché. Ils reviennent, ils creusent, et en cherchant, en creusant, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Et là, quand ça jaillit, bah là, c'est bon. Vous avez tout gagné, hein. Ah, c'est banco, hein. Merci Seigneur, hein. Et ce puits d'eau vive est tout aussi abondant pour ceux qui cherchent Dieu en toute honnêteté. Il nous est dit, Genèse 26, 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point car je suis avec toi, je te bénirai, te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom d'Éternel, il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Par la reconnaissance, ils ont encore trouvé le moyen de creuser un puits à Dieu, pour lui dire merci. Oui, Dieu s'est révélé à lui. Et puis, un petit peu plus loin, vous pourrez découvrir que Abimelech dit « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Voyons que Dieu te redonne l'usage, te redonne la faculté de retrouver l'eau qui était enfouie, celle qu'on t'a cachée, celle qu'on t'a déversé cette terre par-dessus. C'est merveilleux de voir que Dieu est capable de redonner de la vie qui était cachée. N'est-ce pas merveilleux quand même de voir ce que Dieu est capable de faire, hein, la promesse de ce que Dieu est toujours à même de faire dans nos galères. Ah oui, on a pu s'en prendre des coups de pelle de terrassement pour boucher nos espérances, boucher nos ressources, boucher nos espoirs, boucher nos bénédictions, la part que nous avons. Et on s'est comme repris une pelle de poussière. Mais au milieu de tout cela, et cherchant et persévérant dans la présence de Dieu, c'est comme cette tête de forage qui continue inlassablement, qui fait le propre, qui fait le tri, qui est pur. Et qui prend le temps de travailler. Et merci Seigneur. Parce que quand Dieu est avec nous, ça se voit. Ça se voit. Alléluia. Et ça, c'est beau, frères et sœurs, de voir que Dieu veillait aussi sur ça. Dieu veille sur ton cœur. Dieu veille aussi à ton bien. Dieu veille à te redonner ce qui est nécessaire à ton bien. Dieu n'est pas celui qui rejette et qui incrimine ou qui écrase et qui méprise. Mais il est capable d'être cette tête de forage au sein de ton cœur, au fond de ta vie. Et oui, pour que l'eau puisse jaillir, rejaillir tout à nouveau, comme au premier jour. Merci Seigneur, alléluia. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir le connaître, de pouvoir l'invoquer? Et c'est là la promesse, eh bien, du jaillissement après le nettoyage. Lorsqu'on recherche à plaire à Dieu, lorsqu'on cherche à se sanctifier, lorsqu'on cherche à se débarrasser de tout ce qui nous encombre, n'est-ce pas là où nous revenons à la pureté des choses, où nous revenons à l'essentiel des choses, nous revenons à la vérité? Une fois la terre rejetée, Dieu promet de l'eau qui ne manque plus et la sécheresse prend fin. On se disait, mais c'est la sécheresse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mort, c'est aride, c'est impossible. Non, moi je vois plus loin, plus bas, encore plus bas. C'est se mettre à genoux, peut-être creuser encore au bord. On avait une chrétienne à Carcassonne, elle me montre en fait, elle s'était creusée comme un puits dans son terrain. Alors au début je l'écoutais, puis je me suis dit, bon, la sœur est gentille, mais quand même, il en faut, quoi. Puis elle enlève la grosse pierre qui était devant et je dis, oh là, ah oui, quand même. Elle me dit, non, mais j'ai pas fait ça seul. J'ai quand même soulagé. Mais elle pouvait chercher de l'eau pour son jardin. Merveilleux. Merveilleux lorsque Dieu remet les choses à sa place. Et la parole de Dieu dit, dans Ésaïe 58, 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent point. » Amen. Ne faisons pas l'économie de nos efforts. Parce que nous pourrions entendre des promesses et puis se dire « Oh, c'est pas mal, c'est beau ça. Oh, c'est admirable. » Oui, mais il y a des efforts à faire. C'est pas gratuit. Ça tombe pas du ciel comme ça. Et s'il y a des efforts, des dispositions à prendre, on sait qu'elles sont porteuses pour plaire au Seigneur. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et une autre traduction, en ponctuant différemment le texte grec, pourrait se dire, si quelqu'un, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Souvent on note, ils couleront. Mais en fait là, on peut le comprendre aussi selon un autre texte, hein, j'ai pas mis en citation, dans Zacharie 14:8, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Le jaillissement, lorsqu'un forage atteint enfin la nappe, l'eau ne fait pas que couler doucement sous la pression accumulée en profondeur. Elle jaillit jusqu'à la surface. C'est beau, hein ? Ça jaillit jusqu'à la surface. Ça veut se voir. Ça veut jaillir. Ça veut reprendre une immense place. Oui, et en même temps, lorsqu'elle jaillit, c'est le miracle de la grâce de Dieu. Elle nettoie le conduit, balaye peut-être les dernières choses qui resteraient, et le jaillissement fait que le conduit est totalement ouvert, nettoyé, et l'eau jaillit à nouveau. N'est-ce pas l'action de Dieu qui fait que parfois ça remplacera nos efforts? Mais il y a nos efforts à faire. Hein. Il y aura une autre partie, on verra la semaine prochaine, une autre partie, mais la vie de Dieu rafraîchit, non seulement celui qui a creusé, qui a persévéré, mais elle est abondante aussi lorsqu'elle jaillit pour nos familles, pour l'Église, là où nous vivons. C'est un rejaillissement merveilleux, profitable pour tous, alors que le Seigneur soit glorifié. Nombre 21:17. Alors Israël chanta ce cantique, puis monte, chante en son honneur, puis des princes ont creusé que les grands du peuple ont foré avec le sceptre et avec leur bâton. Et dans la parole de vie, le texte dit, c'est au sujet de ce puits que les Israélites ont lancé ce chant. Crions de joie, l'eau a jailli du puits. Amen. L'eau a jailli du puits. C'est beau de voir ce que le Seigneur est capable de faire. Voulez-vous qu'on puisse se lever, qu'on va prier, on va demander au Seigneur de nous bénir, nous faire grâce. Oui, c'est nécessaire de dire, on veut pas renoncer à la bénédiction de Dieu. Ces temps peut-être de périodes de vacances, d'été, c'est pas de continuer à faire avec, mais c'est peut-être un temps nouveau pour dire, Seigneur, on veut profiter aussi de ce temps pour être devant toi. Renouvelle en mon cœur, renouvelle en ma vie, renouvelle encore et dans cette abondance. Seigneur, nous te prions ensemble et nous voulons te remercier pour ta parole qui, Seigneur, est tellement, Seigneur, pleine d'exemples, d'attitudes, et Seigneur, de richesse, d'enseignement, Seigneur, pour nos cœurs et pour nos vies. Et Seigneur, voulons pas renoncer à la bénédiction que tu donnes, au bien que tu es capable de faire. Seigneur, je prie que tu puisses renouveler, fortifier, conduire. Et Seigneur, tout à chacun, merci pour ces réalités qui nous démontrent tout ce que tu fais parfaitement. Seigneur, ta parole, ta promesse se recherche. Et merci que ta bénédiction, se recherche encore dans nos cœurs. Recherché par ton Église. Nous te remercions, Seigneur. Tu n'es pas le Dieu de l'immobilisme, mais tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du tout à coup. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable d'agir tranquillement, mais de faire ton œuvre. Alors, Seigneur, nous voulons refouler peut-être les Philistins, situations bouchées, la terre, la poussière. Nous voulons que l'eau soit précieuse d'un rejaillissement. Seigneur, tout à nouveau. Seigneur, plais-toi de faire la tes œuvres. Te remercions d'être là, Seigneur, d'être la part et le privilège de chacun. Et nous prions dans le beau nom de Jésus. Merci, Seigneur, de renouveler en nos cœurs cette communion. Et Seigneur, cette sanctification, ce travail qui nous revient. Seigneur, nous sommes conscients que tout se fait avec ton secours, mais avec ta bénédiction. Seigneur, puissions-nous être vus, remarqués comme étant de tes enfants, comme de ceux qui sont bénis par toi. Merci, Seigneur. Oui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez.